Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le sixième dimanche de Pâques. Jude dit à Jésus,
« Seigneur, pourquoi se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?»
Jésus lui répond,
« Si quelqu'un m'aime d'amour gratuit, il gardera et accomplira ma parole. Mon Père l'aimera d'amour gratuit et nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Si lui qui ne m'aime pas d'amour gratuit ne garde pas et n'accomplit pas ma parole. » La parole que vous écoutez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je demeure auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit de sainteté que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix qui est la mienne. Ce n'est pas comme le monde donne que moi je vous donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Vous avez écouté ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez d'amour gratuit, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Maintenant je vous ai parlé avant que cela arrive, pour que vous ayez foi quand cela arrivera. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Il est bien banal de dire qu'il y a beaucoup d'idées dans ce passage d'Évangile. Plus que des idées, ce texte est riche de sentiments et d'émotions. Il faut écouter ces phrases dans le contexte où elles ont pu être prononcées. Celui des adieux de Jésus à ses compagnons, les disciples dont il avait fait ses amis.
Nous sommes en effet dans les chapitres de Jean, et qui relate l'entretien suprême de Jésus avec ses apôtres lors du dernier repas, après le geste si fort du lavement des pieds. Un entretien fidèle à la coutume des repas sacrés comme celui de la Pâque, où le maître de maison répond aux questions du plus jeune des convives. Mais ici, ce sont à tour de rôle Pierre, Thomas, Philippe et Jude qui interrogent le maître. À la parole de Jésus, « Là où je vais, vous ne pouvez venir. Simon Pierre fait la première demande, où vas-tu ?» Ce qui permet à Jésus, à la fois d'annoncer à Pierre qu'il manquera de courage pour le suivre, mais aussi d'annoncer qu'il viendra prendre avec lui ceux qui auront pris le chemin du Père. Et alors c'est Thomas qui renchérit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui fait alors cette réponse unique, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est celui par qui on va au Père. Et c'est au tour de Philippe de se faire suppliant, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et la réponse revient, semblable mais encore plus explicite, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Encore un peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et c'est enfin Jude qui pose la question à laquelle notre texte va apporter une réponse.
Seigneur, pourquoi se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde?
Bien, pour comprendre la question de Jude et en apprécier la réponse de Jésus, il nous faut nous interroger sur le style de manifestation que ses disciples pouvaient attendre de la part de ce rabbi, de ce Jésus Messie. Les écrits bibliques décrivent souvent la venue du Messie. Citons simplement le chapitre 60 d'Isaïe.
Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur Dieu. Les nations marcheront à ta lumière. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, et leurs rois te serviront. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront, et les nations seront exterminées. ils s'approcheront de toi, humblement, les fils de tes oppresseurs. Ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui te méprisaient.
Ils s'approcheront, tes oppresseurs, ils se prosterneront, ceux qui te méprisaient. On le voit, la venue du Messie était espérée alors comme une victoire du peuple de Dieu, un peuple qui devenait le centre du monde et rassemblait autour de lui tous les autres peuples. De là, probablement, l'incompréhension de Jude lorsque Jésus parle de sa manifestation à ses disciples et non pas au monde. C'est que Jésus se situe sur un tout autre plan qui est celui de l'amour. Sa manifestation sera de l'ordre de la rencontre intérieure, une rencontre spirituelle, amoureuse, plus intime à moi-même que moi-même, dira plus tard saint Augustin. Jésus parle de faire sa demeure dans le cœur de son disciple, dans le cœur de celui qui garde sa parole. Garder la parole de l'être aimé, n'est-ce pas justement le propre de l'amant? De celui qu'on aime passionnément, on garde jalousement les paroles, on se les remémore, on se les redit lorsqu'on est éloigné, lorsqu'on est séparé. Pour la Bible, garder la parole, ce n'est pas seulement garder ses paroles en archive, c'est aussi les mettre en pratique pour faire revivre les moments de communion avec l'aimé. Mais faire revivre les paroles de Jésus, c'est aussi communier au Père. Puisque, dit Jésus, les paroles que vous écoutez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La présence de Jésus dans le cœur de son disciple est donc aussi une présence du Père. Nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure, dira Jésus.
L'Esprit vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit.
L'Esprit est surnommé ici le Paraclet. Un nom un peu étrange à nos oreilles. Mais c'est un nom commun dans la langue juive. Il désigne une personne qui se tient à côté de vous pour vous apporter un soutien, une aide. Alors cela peut être un avocat qui est à vos côtés pour prendre votre défense. Et c'est pourquoi on traduit souvent Paraclet par défenseur. Les tribunaux juifs connaissaient en effet un personnage qui n'existe plus de nos jours. Dans un procès, lorsque le verdict était rendu, il pouvait arriver qu'un homme de réputation incontestée vienne silencieusement se placer à côté de l'accusé, ou pour mieux dire, du côté de l'accusé. Cette personne jouait alors le rôle de paraclet et son témoignage muet confondait les accusateurs. On se souvient du rôle de Jésus dans le récit de la femme adultère. Jésus ne parle pas, mais il se tient du côté de cette femme face à ses accusateurs. Mais il y avait aussi d'autres sortes de paraclets. Ce mot désignait un autre personnage, celui qui faisait l'interprète à la synagogue. À la synagogue, qui est la maison de prière des Juifs, les lectures des prophètes se faisaient alors en hébreu, qui est la langue de la Bible. Au temps de Jésus, les gens ne comprenaient plus beaucoup l'hébreu, car on parlait araméen. Araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu, un peu comme l'italien, l'espagnol ou le français sont proches du latin. À la synagogue, il fallait donc traduire les lectures des prophètes. Et alors, à côté du lecteur, qui avait lu en hébreu, se tenait quelqu'un qu'on appelait le paraclet. Il traduisait et interprétait les textes pour mieux les faire comprendre aux fidèles. Alors, c'est peut-être ce personnage du paraclet interprète qui est repris ici par Jésus pour parler de l'Esprit-Saint.
Le Paraclet, l'Esprit que le Père vous donnera, vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de toutes mes paroles.
Se souvenir, faire mémoire, ne signifie pas seulement se rappeler quelque chose qui est du passé. Dans la Bible, faire mémoire, c'est au contraire rendre présent un événement du passé. Jésus vient de dire « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Et nous avons vu que garder la parole, ce n'est pas mettre cette parole au rayon des archives, mais c'est la vivre, la mettre en pratique, l'accomplir. Lorsque Jésus ne sera plus au milieu des siens, il redira ses paroles au cœur de ses disciples par l'Esprit Paraclet. c'est l'Esprit même de Jésus qui viendra aider son disciple à mettre en pratique l'Évangile, qui viendra aider à vivre selon les mœurs mêmes de Dieu. C'est avec l'Esprit que le disciple pourra penser et agir divinement. En d'autres occasions, Jésus a dit que le Paraclet fera accéder à la pleine vérité. Jésus d'ailleurs était déjà lui-même un Paraclet, un interprète. Il a interprété les paroles du Père. Il en est le chemin et la vérité. Mais quand il ne sera plus là, il promet d'envoyer un autre Paraclet qui sera avec nous pour toujours. Un interprète de la pensée de Dieu et de Jésus est toujours aussi précieux pour nous aujourd'hui, car nous sommes plus que jamais affrontés à de graves interrogations. Par exemple, sur le plan de la morale de la vie, ce qu'on appelle la bioéthique, pensons à tout ce qui concerne contraception, avortement, suicide assisté, euthanasie, et les bébés éprouvettes et le clonage. Il n'y a en effet pas d'unanimité dans les populations sur ces sujets. Et pour certains de ces problèmes, même entre chrétiens, il y a des opinions divergentes. Faisons-nous assez appel à l'Esprit, au Paraclet, pour nous mener vers une plus grande vérité? Dieu nous a parlé par Jésus, mais nous n'avons pas encore découvert tout ce que sa parole peut nous dire. Un autre exemple, nous ne sommes plus dans une société qu'on appelait autrefois monolithique, c'est une société... La société monolithique, une société qui est unanime sur le plan des valeurs, un monde où tout le monde pense pareil. Aujourd'hui, et surtout dans les grandes villes, nous sommes en face d'un grand pluralisme, d'une grande diversité de races et de religions. Ainsi, l'immigration amène chaque année dans la grande région de Montréal 40 000 personnes, et parmi eux, il y a certes des chrétiens, mais aussi, et peut-être en plus grand nombre, des musulmans, des bouddhistes et des incroyants. Eh bien, ces gens ont des sensibilités diverses en ce qui concerne les valeurs morales. Alors, de plus en plus, un dialogue est nécessaire pour se comprendre d'abord, mais aussi pour s'enrichir mutuellement. Il nous faut donc demander l'aide du Paraclet dans ces dialogues. Le dominicain Lacordaire a une très belle réflexion sur ce sujet. Citons-le de mémoire.
Quand je rencontre quelqu'un qui ne partage pas mon opinion, je ne cherche pas tant à le convaincre de son erreur qu'à ce que nous marchions ensemble vers une vérité plus grande.
Eh bien, pour vivre cette phrase de Lacordaire, il faut croire que l'autre, quelle que soit sa religion, sa croyance, voire son incroyance, croire que cet autre est habité par l'Esprit divin. Dans tout être de bonne volonté, il y a une présence de Dieu. Le Christ et son Esprit sont là en tout être humain, mais d'une façon qui souvent nous est cachée. Il nous faut donc découvrir la présence de l'Esprit en l'autre. Et ensemble, nous aurons alors à faire grandir cette présence. Eh bien, cela suppose pour nous une attitude de contemplation, c'est-à-dire un regard généreux, gratuit, qui cherche en priorité ce qui est beau et bon en l'autre. On pourrait dire que contempler, c'est se mettre sur la longueur d'onde de l'Esprit. Or, c'est Dieu seul qui peut nous placer sur sa longueur d'onde. C'est lui qui vient vers nous pour faire sa demeure en nous. Il faut donc ouvrir notre cœur à l'Esprit Paraclet. Et pour cela, il faut nous donner des temps de silence, demander l'aide de l'Esprit, lire l'Évangile, le méditer.
Je vous donne ma paix.
Nous savons que la façon juive de se saluer est de se souhaiter la paix. En langue juive, cela se dit shalom. Paix à toi, la paix soit avec toi. Dans la langue française, on dit bonjour, que ta journée soit bonne. Eh bien, la paix, que signifie-t-elle dans la langue de Jésus? Le mot paix, shalom, évoque ce qui est complet, ce qui fait unité. On connaît le psaume 121 qui parle de Jérusalem. Jérusalem, viendrait le mot Salem ici, viendrait de shalom, selon l'étymologie populaire. Donc Jérusalem voudrait dire cité de la paix.
Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, bâtie comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un.
Des expressions juives traduisent bien cette idée que la paix est l'unité, la concorde, l'harmonie. Par exemple, pour dire un ami, on dit « il est l'homme de ma paix ». Pour dire achever une maison, mettre le toit qui va faire l'unité des murs, on dit pacifier la maison. Cette image juive de la paix est très belle et elle est très inspirante. Il n'en est pas de même du mot paix en français si l'étymologie est exacte parce que l'on pense que ce mot viendrait du mot pâle qui veut dire un pieu. Pour délimiter les terrains, on plante des pieux, on les fiche en terre. Et lorsque l'on plante plusieurs pieux, les uns à côté des autres, cela forme une pâle issande. Eh bien, c'est peut-être là l'origine de cette expression « ficher la paix à quelqu'un » et cela voudrait dire alors qu'on met une clôture, une palissade entre sa terre et la nôtre. Chacun chez soi et on sera tranquille, on ne se chamaillera pas. Comme dit le proverbe, les bonnes clôtures font les bons voisins. On voit que le mot paix en français est loin d'évoquer l'unité et l'harmonie. Mais revenons à Jésus, je vous donne la paix. Jésus nous dit son désir, son projet de travailler à faire l'unité. N'oublions pas que faire la paix, apporter la paix, était, dans la tradition biblique, la tâche première du Messie que les Juifs attendent. Je me souviens avoir posé, il y a quelques années, à un Juif cette question, « Pourquoi, vous, les Juifs, vous ne reconnaissez pas Jésus comme Messie ?» Et il m'avait répondu, « Parce que Jésus n'a pas apporté la paix. » Eh bien, c'est vrai de la paix, j'allais dire politique, car moins de 40 ans après la mort de Jésus, les Romains détruiront complètement la ville de Jérusalem parce que les Juifs se seront révoltés. Et voilà maintenant 2000 ans que Jésus est venu, et notre monde ne cesse de connaître des guerres. Jésus dit que la paix qu'il apporte, il ne l'apporte pas précisément à la façon du monde. Comment comprendre cela? Le monde croit pouvoir en effet apporter la paix par la force, en l'imposant. On règle plus souvent les conflits par la guerre, par la domination, davantage que par le dialogue. Les traités de paix sont le plus souvent signés après des guerres qui font de nombreuses victimes. Face aux conflits, des conflits qui sont inévitables dans le monde, Jésus ne croit pas aux moyens qui sont ceux des pouvoirs politiques, parce que cela ne va pas au cœur des choses. Des structures justes ne forment pas automatiquement des humains qui deviennent justes. Si la paix ne se bâtit pas sur des êtres vraiment convertis à la justice et à la solidarité, la paix, en effet, ne dure pas. Pour Jésus, la paix demande même d'aller plus loin que la justice. Pour lui, la seule puissance de paix est celle de l'amour. Or, l'amour ne s'impose pas, il se propose, dans un dialogue qui en appelle à la liberté de l'autre, si tu veux. Rappelons cette belle phrase du philosophe Jean Lacroix.
Aimer, c'est promettre et se promettre de ne jamais utiliser les moyens de violence et de puissance envers celui, celle qu'on aime.
L'amour se conjugue avec l'humilité. Je ne suis pas parfait, mais ensemble nous pouvons nous entraider et grandir. Les gens qui se pensent forts et qui manifestent leur puissance ne peuvent pas vraiment aider les autres. Ils sont peut-être admirables, mais ils ne sont pas proches. Car il ne s'agit pas de vaincre l'autre, il s'agit de chercher avec l'autre le chemin de l'entente, le chemin d'une plus grande justice. Marcher ensemble vers une vérité plus grande, disait Lacordaire. Certaines fois, cette marche ensemble est impossible, car cette recherche de la concorde est refusée. Jésus a vécu cela. Il a été rejeté par les dirigeants de son peuple. Mais sa volonté profonde d'aimer n'a jamais été entamée. Il a préféré s'exposer lui-même en livrant sa vie dans un grand geste d'amour, plutôt que de prendre des moyens de puissance et de violence pour vaincre ses opposants. Une victoire qui s'impose par la force est sans lendemain d'une paix durable. « Qui prend l'épée périra par l'épée », dit Jésus à ses disciples. Toute la passion de Jésus, l'acceptation volontaire de sa mort n'a effectivement de sens que si nous voyons dans cette mort un geste de pardon d'amour. C'est dans cette mort d'amour sur la croix que Jésus est vraiment la source de la paix. Oui, la paix donnée par Jésus est proche du pardon. Mais voici que cette mission d'être porteur de paix par le pardon est une mission que Jésus va confier précisément à tous ses disciples. Nous connaissons ce moment de rencontre de Jésus avec les disciples au soir de la résurrection qui se trouve au chapitre 20 de l'évangile de Jean.
Le soir de ce premier jour de la semaine, alors que les portes sont verrouillées par crainte des Juifs, Jésus se tient au milieu de ses disciples. « Paix à vous !» En voyant le Seigneur, les disciples sont tout à la joie. « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il insuffle son souffle en eux en disant « Recevez mon souffle de sainteté. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. »
Que signifie ce geste de Jésus ? Nous savons que dans plusieurs langues, en hébreu, en grec, en latin, souffle et esprit, c'est le même mot. En hébreu, cela se dit « roi », en grec « pneuma », en latin « spiritus ». Le mot grec « pneuma » a donné en français « poumon »,« pneumatique ». On pourrait dire que le sens propre du mot « roi », c'est le souffle, le vent, et que le sens figuré, c'est l'esprit. Le latin « spiritus » a donné esprit, mais aussi inspiré, expiré. Au sens propre, inspirer, c'est s'ouvrir au souffle, le faire entrer dans nos poumons, alors qu'au sens figuré, être inspiré par quelqu'un signifie s'ouvrir à la pensée, à l'esprit de l'autre. Au soir de la résurrection, Jésus va inspirer ses disciples. On traduit souvent « il souffle sur eux ». Mais le verbe employé dit « il insuffle en eux ». Comme on le fait quand quelqu'un ne respire plus, par le bouche à bouche, on lui insuffle notre propre souffle pour lui redonner du souffle. Jésus, lui, fait entrer en ses disciples une force de vie, un souffle spirituel de vie divine. La Genèse décrit la création de l'être humain comme un don de souffle divin.
Le Seigneur Dieu modela l'humain avec de la poussière prise du sol. Il insouffla dans ses narines le souffle de vie, et l'humain devint un être vivant.
Le ressuscité recrée ses disciples avec un souffle divin de bonté, de pardon. Remettez les fautes, pardonnez. Transmettez-vous les uns aux autres mon souffle de pardon pour remettre les cœurs dans la paix. La faute, en effet, est toujours un manque d'amour. Et manquer d'amour, c'est affaiblir la vie en nous. C'est manquer de souffle de vie. Plus nous manquons d'amour, plus nous entrons déjà dans la mort spirituelle. Le pardon, lui, veut faire renaître quelqu'un à l'amour. Dans l'Église catholique, ce geste de pardon est confié au prêtre, mais le prêtre, dans le sacrement de la réconciliation, est le représentant du corps du Christ total. Jésus, ses disciples, la tête et les membres du corps. Le rituel du sacrement de pardon sera donc peu fécond et presque vidé de son sens, si les chrétiens ne vivent pas vraiment le pardon entre eux, s'ils ne sont pas des porteurs de pardon. Disciples de Jésus, nous sommes tous responsables du pardon qui vient de Dieu. En effet, qu'est-ce que c'est que pardonner ? Si ce n'est dire à celui qui est possédé par la volonté de dominer, de posséder l'autre, les autres, dire à celui qui manque d'un véritable amour, lui dire « Je sais que tu es meilleur que ce que tu fais. Ce que tu fais, tu ne le veux pas vraiment. Tu es victime des circonstances mauvaises. Mais au fond de toi, il y a un être capable d'amour. Sois sûr que tu es aimé. » Celui qui se découvre aimé gratuitement, sans condition, celui-là devient capable de respect de l'autre, de partage. Il perd cette insécurité profonde qui le rendait d'une certaine manière possessif et dominateur, il peut vraiment, par le pardon, revivre à l'amour. Voilà la responsabilité que Jésus nous donne. Recevez mon esprit pour être des artisans de paix. François d'Assise exprimait bien cette mission qui est celle du chrétien.
On reconnaîtra que tu aimes le Seigneur si n'importe qui au monde, après avoir péché contre toi autant qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander ton pardon et te quitter pardonné.
Eh bien, poursuivons la pensée de François. Si au contraire, tu ne remets pas les fautes, si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta sœur, alors il ne recevra pas cette force qui va le guérir et le faire revivre. Voilà notre responsabilité. Voilà un pain d'amour et de paix que nous pouvons partager tout au long de cette semaine.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois ou 6 mois au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs des abonnements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchou.
Chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.
Oh.